Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous les radars. Chaque samedi à midi, du citoyen au politique, 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
Vous avez accepté d'être tiré au sort, de suspendre pour 9 sessions votre quotidien, de consacrer ainsi de votre temps, de votre réflexion, pour vous consacrer à cette question de la fin de vie. Et en effet, la vigueur d'une démocratie suppose que le plus grand nombre franchisse ce seuil de la sphère privée vers l'agora publique. Et franchir ce seuil, ce n'est pas simplement avoir un avis ou dire « je suis contre ceci ou cela ou cette décision qui est prise ». C'est de participer à la formation de la décision collective. Et que les citoyens se délestent un peu de ce que Tocqueville appelait la rouille démocratique.
Le tirage au sort serait-il le remède miracle pour revigorer nos pratiques démocratiques ? Serions-nous donc dévorés par la rouille dans ce vieil exercice de démocratie représentative, usé, vieilli, fatigué ? C'était il y a un an, quasi jour pour jour, Emmanuel Macron clôturait les travaux de la Convention citoyenne pour la fin de vie et saluait l'exercice d'intelligence collective, d'écoute et de respect de chacun, un passage de la sphère privée à l'agora publique, véritable levier d'engagement. En 2007, souvenez-vous, la candidate socialiste à l'élection présidentielle Ségolène Royal prônait déjà la participation, une manière d'associer le citoyen dans sa décision et de guérir notre crise démocratique. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, ces dispositifs sont pléthoriques, des conseils citoyens, aux conseils de quartier, aux budgets participatifs, aux réunions publiques, tout est fait pour recueillir la parole citoyenne. Mais sont-ils véritablement efficaces ? Ou donnent-ils lieu, comme le conspuent ses détracteurs, à une illusion de dialogue quand l'espace du pouvoir reste l'institution et les pratiques verticales et descendantes ? Peut-on imaginer des espaces susceptibles de faire émerger les voix de ceux qu'on n'entend plus ou qu'on refuse d'entendre depuis déjà si longtemps ? Quand l'abstention, la défiance, la colère et la violence parfois à l'égard des politiques et du politique sont à leur paroxysme, comment renouer le dialogue et le lien ? Peut-on rendre l'action publique plus démocratique ? Bonjour Manon Loisel.
Bonjour.
Vous êtes consultante chercheuse en politique publique territoriale chez Parties Prenantes, enseignante à l'École urbaine de Sciences Po Paris, chroniqueuse régulière pour Alternatives économiques, mais vous êtes là parce que vous avez co-signé avec Nicolas Rio pour en finir avec la démocratie participative. C'est paru aux éditions textuelles en 2024. Alors on entendait à l'instant Emmanuel Macron qui parlait de la Convention citoyenne sur la fin de vie et l'idée que ça revigore la démocratie. Est-ce qu'il a raison ?
Alors je ne crois pas. Ce propos s'inscrit dans ce qu'il a appelé lui-même le renouveau démocratique, qui fait même l'objet d'un secrétariat d'État. Le renouveau démocratique, c'était ce moment ponctué notamment par la création du grand débat en réponse au mouvement des Gilets jaunes et de la Convention citoyenne pour le climat dans un premier temps, qui s'est ensuite démultiplié. Convention citoyenne sur la fin de vie, et puis là, le nouveau ministre des Mobilités, Patrice Vergriete, demande une convention citoyenne sur les mobilités, on fait de même sur le nucléaire. Bref, on a l'impression d'avoir trouvé le remède miracle, ces conventions citoyennes, pour un renouveau démocratique et justement le remède à la crise démocratique. Et nous, l'hypothèse qu'on fait, en tant que praticiens de l'action publique locale qui travaillons depuis 10 ans sur ces questions-là, c'est de dire que la démocratie participative ne peut pas être le remède à notre crise démocratique et que bien au contraire, elle vient plutôt augmenter la crise, augmenter la défiance.
Mais pour quelle raison ? Parce que, après tout, on demande à ce que cette parole citoyenne, elle existe, on crée des dispositifs qui n'ont jamais été aussi nombreux pour recueillir cette parole. En quoi, selon vous, elle finit par abîmer même la démocratie ?
Les élus sont de plus en plus mal élus, les institutions sont de plus en plus en manque de légitimité. Et le problème, c'est qu'effectivement, on a tendance à se dire on va démultiplier des canaux d'expression pour aller laisser les citoyens s'exprimer, leur donner la parole. Et donc, en fait, ça fait des années qu'on perfectionne des dispositifs, qu'il y a une fuite en avant de cette offre.
Donc, on légitime
la décision politique. Et en fait, ça sert à ça.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ces instruments-là ne peuvent pas être des contre-pouvoirs. Ils sont piégés dans une forme très grande d'institutionnalisation. La Convention citoyenne pour le climat, sans le mandat que lui a donné Emmanuel Macron, c'est rien d'autre que 150 citoyens dans une salle. Et en fait, donc, ces institutions-là et ces dispositifs-là sont légitimés par les collectivités et les institutions qui font appel à elles. Et donc, elles ne peuvent pas être des contre-pouvoirs.
Alors, le maître de conférence en sciences politiques à l'université Lyon 2, Guillaume Gourges parle d'autoritarisme participatif, en s'abritant en fait derrière des consultations citoyennes qu'il sélectionne et organise lui-même. L'État escamote les procédures et institutions démocratiques. C'est aussi dans un dialogue direct et très vertical qu'on a une forme de délégitimation aussi de la démocratie représentative et de ceux qui sont censés représenter la parole du peuple.
Oui, alors, ce que dit Guillaume Gourges aussi, c'est de dire finalement, c'est parce que ces dispositifs sont impuissants qu'on fait appel à eux. C'est parce que structurellement, ils ne servent à rien, entre guillemets, pour le dire de façon un peu caricaturale, qu'on continue à démultiplier ces instances-là. Mais la première critique qu'on fait dans le bouquin, c'est de dire elles sont effectivement impuissantes. Quand Emmanuel Macron met en scène un dialogue direct entre lui et 150 citoyens, on voit bien à quel point la promesse du sans-filtre est antidémocratique. Antidémocratique parce que la démocratie, c'est l'existence d'une série de filtres et que le dialogue qui est voulu comme un dialogue horizontal est en fait un dialogue éminemment vertical parce qu'il y a des asymétries telles entre lui et les 150 et parce que, en partie, ça met de côté les corps intermédiaires, ça met de côté les associations, ça met de côté tous les garants, on va dire, des contre-pouvoirs. Et donc, ce qui était censé être une promesse de dialogue direct est en fait une forme très jupitérienne d'exercer le pouvoir.
Mais Manon Loisel, en l'état, est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner la démocratie participative ?
Alors, c'est le titre de notre livre qui s'appelle « Pour en finir avec la démocratie participative » et qui a été jugé au départ comme une provocation. On nous a dit « Ah, mais vous voulez faire le buzz, mais vous le pensez pas vraiment. » Et en fait...
Oui, d'autant que vous en vivez.
Pas vraiment, nous, on est praticiens de l'action publique locale. Il arrive très souvent qu'au cours de nos missions, on nous demande un panel citoyen, une réunion publique, etc. Mais c'est pas le cœur de notre métier. Mais en fait, si on a choisi ce titre, c'est justement parce que c'est pas une provocation, c'est une proposition. Une des propositions qu'on fait, c'est un moratoire sur les nouveaux dispositifs de participation et de dire finalement, il faut mettre fin à cette fuite en avant de l'offre participative qui nous empêche de réfléchir tranquillement au bilan coût-bénéfice. Et puis, il faut réorienter les efforts, c'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu, c'est de démocratiser l'action publique, d'aller regarder où les libertés démocratiques et l'égalité démocratique est mise en difficulté, plutôt que de continuer justement à performer cette démocratie parallèle qu'on essaye de perfectionner et de raffiner, mais qui finalement est à la marge des endroits du pouvoir.
Alors justement, direction Chambéry, l'association Equitas anime depuis des années le collectif Boussole, un groupe d'entraide et d'interpellation citoyenne composé de personnes au chômage ou allocataires du RSA qui lutte contre les ruptures de droits et permet un accompagnement, une manière aussi de faire émerger des paroles et des trajectoires invisibles et invisibilisées. Reportage Lucas Roxo.
L'idée, c'est d'essayer d'avoir un petit temps de travail et d'échange autour de... où est-ce qu'on a le sentiment d'avoir du pouvoir sur sa vie et où est-ce qu'on a le sentiment de pas en avoir.
Il faut que j'apprenne à vivre avec une maladie qui me tombe dessus et j'arrive pas.
Moi, ça m'a vraiment choquée la façon dont on a parlé dès que je suis devenue chômeuse alors qu'on était en plein Covid. Je pouvais pas trouver de travail en tant qu'enseignante, mais on m'a tout de suite culpabilisée. On m'a proposé des ateliers pour m'apprendre à m'exprimer, à organiser ma pensée. Je suis enseignante. Voilà. Et moi, j'expliquais à ma conseillère, si je vais dans cette pente-là, madame, je vais perdre de l'estime de moi. Et ça, c'est pas bon pour trouver du travail. Vous comprenez rien.
En fait, en réfléchissant bien, je m'aperçois que, en fait, on fait du mieux qu'on peut tous les jours. On essaie de faire ce qui est juste, mais on n'a pas tellement de pouvoir sur tout un tas de trucs qu'on voit qui se passent autour de nous. Alors, pour avoir du pouvoir, il faudrait peut-être faire l'effort d'aller s'investir un peu dans la vie politique et pas seulement dans des associations.
Un des trucs qu'on s'est dit, je pense, dans Equitas et dans pourquoi on avait envie de faire ces groupes, c'est de se dire aujourd'hui, si t'es agriculteur ou si t'es boulanger, t'as des syndicats tu as des organisations où tu vas te retrouver, tu vas pouvoir un peu défendre tes intérêts, et que dans le monde du chômage et de la précarité, les gens sont plutôt isolés. Et dans ce groupe, on a pu aller dialoguer avec des délégués territoriaux de Pôle emploi. On peut dialoguer, c'est ce qu'on a fait il y a 15 jours avec le département de la Savoie pour mettre en avant des vigilances sur la mise en place de la réforme France Travail. En fait, on a des espaces parce qu'on est organisé collectivement qu'on n'aurait pas individuellement.
Ce que j'aime à propos d'Equitas, c'est que ce n'est pas un groupe de parole. C'est un lieu de discussion, mais qui est vraiment structuré et qui a des objectifs. Ça permet que nos paroles soient valorisées dans un cadre qui est structuré, justement. Et que oui, ça lui donne de la valeur, du coup.
Alors que tout à l'heure, Alain, tu expliquais c'est pas comme les conseils de quartier. Et moi, j'étais motivée, j'allais y aller, j'allais faire avancer ma ville et machin. Et en fait, ils avaient déjà tout préparé, toutes les questions qu'on allait aborder. Vous ne nous connaissiez pas avant, donc comment vous avez pu deviner de... Non, vous avez choisi de nous faire parler, c'est pas pareil. Et donc, je n'y vais plus. Mais je vais là.
Dans une semaine ou dans 15 jours, selon vos disponibilités, vos envies.
Je vais de l'autre côté à la maison des assos pour les aider à installer.
D'accord.
Alors ce soir, c'est une bibliothèque humaine qu'on présente, donc c'est une invitation à aller écouter des récits de vie faits par 11 personnes qui sont issues du groupe avec lequel on vient de passer le début de l'après-midi. Et l'idée pour nous, c'était de mettre en scène, ou en tout cas de mettre en partage des témoignages autour de la question de la place du travail et de l'emploi dans la vie, pour montrer que c'est pas si simple qu'on pourrait le penser.
6 juin 2018, je suis licenciée pour inaptitude physique. Je me suis retrouvée à terre. En effet, 20 ans de ma vie s'écroulaient. S'écroulait également une relative quiétude financière, une routine de travail sécurisante. Et le plus important pour moi, la reconnaissance sociale de mon être.
Puis vient le temps des rencontres. Sarah, qui m'a proposé d'intégrer un groupe Boussole, un parcours destiné aux personnes abîmées par l'emploi, dans tous les sens du terme. Il y a eu aussi Vicky, une bonne conseillère Pôle emploi. Oui, oui, ça existe. Grâce à elle, je rencontre Elodie, qui arrive à me convaincre en l'espace d'1h30 que je suis capable de faire un site internet.
À Equitas, nous animons depuis 8 ans des collectifs de personnes concernées par ces injustices, comme le collectif Luciole à Chambéry, qui démarre en ce moment. Mais avec cette bibliothèque humaine, nous voulions faire autre chose, sortir de notre bulle et vous partager nos histoires.
Nous voulions aussi sortir des cases dans lesquelles la société nous range parfois, et dans lesquelles nous sommes à l'étroit. Nos vies sont plus rondes, plus riches, plus tordues ou plus colorées que ce qu'il n'en paraît.
Et pour finir, merci de nous avoir prêté vos oreilles.
Manon Loisel, on a entendu beaucoup de choses dans ce reportage avec les équipes d'Equitas et les bénéficiaires. Pourquoi c'est important un dispositif comme celui-là, selon vous ?
Equitas, ça fait vraiment partie des sources d'inspiration dont on parle dans le livre, et notamment parce qu'ils ont une vraie capacité à inverser le dialogue, inverser la perspective. Et donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait dans une convention citoyenne. Une convention citoyenne, c'est une collectivité qui maîtrise le cadre, qui maîtrise le sujet, qui va former les citoyens pour pouvoir faire en sorte qu'ils se conforment aux attentes de l'institution, au langage de l'institution. Là, c'est exactement l'inverse. C'est on part d'un groupe de personnes, on part de leur vécu. Il y a une concentration folle sur l'écoute et la place de l'écoute dans ces groupes-là, leur vécu, leur témoignage. Et à partir de ça, on va essayer de faire remonter des messages aux institutions. Donc en fait, c'est un peu la logique inverse de ce qu'on appelle l'empowerment des acteurs affaiblis. Là, c'est plutôt le travail sur le disempowerment des acteurs établis. C'est faire en sorte de se dire comment l'institution peut se mettre à hauteur de personnes précaires et comment elle peut se mettre dans leur basket pour comprendre leur vécu, leurs difficultés et donc faire évoluer ses process, faire évoluer ses politiques publiques en fonction de leurs difficultés. On voit bien que là, l'enjeu, c'est de mettre les absents au centre et de faire en sorte que ces paroles existent. Mais dans quelle mesure, et on a pu le voir sur les cahiers de doléances, recueillir à terme cette parole, ce n'est pas un risque de verser dans le monologue si l'institution en face ne vous écoute pas et surtout si elle ne prend pas en compte ces paroles dans ses politiques publiques.
Alors, il y a deux choses là-dessus. La première chose, c'est de dire d'abord attention. En matière de démocratie participative, on a plutôt tendance à aller écouter celles et ceux qu'on entend déjà. Et
donc nous, ce que vous appelez tous les mêmes, les TLM.
Alors c'est plutôt les vrais professionnels de la participation qui les appellent les TLM entre eux. Et j'avais été assez surprise d'entendre ça dans des réunions de professionnels. Mais c'est de dire effectivement, à ce stade, on part au départ de l'abstention pour dire il faut démultiplier les canaux d'expression et de dialogue avec les citoyens. Et pour autant, franchement, c'est très rare d'avoir des abstentionnistes qui se déplacent et qui viennent dans ce genre de réunion-là. Et donc, nous, on fait le constat quand même que la démocratie participative, elle creuse les écarts, les inégalités de représentation, elle survisibilise ceux qui sont présents, on appelle ça, nous, dans le livre, la présentocratie, celles et ceux qui se mobilisent, qui ont le langage, les codes, le temps,
l'expertise, et puis qui ont les ressources pour le faire.
Exactement. Et au contraire, ça vient invisibiliser encore davantage celles et ceux qui s'en tiennent éloignés. Et ça a des effets hyper concrets. On le voit notamment sur la politique de la ville, on voit à quel point les personnes qui ne se mobilisent plus dans ces cadres-là sont en fait invisibilisées dans les choix d'action publique très concrets, des choix budgétaires, des choix d'orientation. Donc il y a un premier truc là-dessus sur ça creuse les inégalités. Et ce que vous disiez par rapport à la question du dialogue ou du monologue, c'est qu'effectivement, nous, on a tendance à dire qu'il faut totalement renverser le problème. C'est-à-dire qu'on est focalisé en matière de démocratie participative sur l'expression des citoyens et qu'en fait, ce qu'il faut, c'est travailler la capacité d'écoute des institutions. On repart pour ça d'une analogie qu'on a fait avec le mouvement MeToo, qui nous a beaucoup marqué en disant, mais finalement, MeToo, c'est à la fois une prise de conscience de l'importance de l'expression, des témoignages individuels et collectifs, mais c'est aussi la nécessité d'écouter et de transformer les institutions. Si on a une parole des femmes qui se libère, mais que derrière, au niveau de la police, de la justice, des dépôts de plaintes, du travail même d'accueil de ces femmes, on n'est pas capable de faire bouger nos institutions, et ben ça va faire augmenter la colère et la défiance sur ce sujet.
Et vous le dites, d'ailleurs pour les Gilets jaunes, en fait, on est plus dans une crise de l'écoute de la part des institutions parce que beaucoup disaient, sur les ronds-points et ailleurs d'ailleurs, sur les groupes Facebook ou autres, que cette parole-là, elle était déjà dans l'espace public.
Oui, alors ça c'est ce que dit Bruno Latour, qui dit finalement la crise démocratique, on peut la résumer par l'idée d'avoir des sourds qui tentent de donner la parole à des muets. Et donc en fait on est focalisé sur redonner la parole aux personnes qui sont muettes, mais si les muets retrouvent la parole mais que les sourds restent sourds, ça augmente la défiance. Et c'est là tout un peu effectivement la crispation, la colère qu'on a eue au moment des Gilets jaunes, c'est qu'on a vu les Gilets jaunes comme un moment démocratique enthousiasmant de remise en visibilité de tout un tas de gens qui ne participaient plus au débat, et qu'en fait au moment où on passe des Gilets jaunes au grand débat animé par voulu par le président Macron, eh ben on change de casting. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est le Cevipof qui a fait toute une étude montrant que c'était plus du tout les mêmes personnes. Les personnes des ronds-points et les personnes qui sont venues dans les gymnases aux réunions publiques, il y avait un écart énorme, les personnes des gymnases étant ces fameux TLM, donc plus diplômés, avec des revenus plus élevés, plus souvent des hommes, plus âgés, etc. Et donc, voilà, le point de départ de notre colère et de notre sentiment d'impuissance, on appelle ça un peu pour plaisanter notre démo-anxiété, en faisant le parallèle avec l'éco-anxiété. On a de plus en plus des formes d'anxiété sur notre crise démocratique avec mon collègue Nicolas Rio, et elle vient de là, cette démo-anxiété.
France Culture, sous les radars, Nora Hammadi.
Manon Loisel, je rappelle que vous avez co-signé avec Nicolas Rio pour en finir avec la démocratie participative. Alors, je vous propose d'aller à La Montagne, en Loire-Atlantique. Fabien Gracia est maire de cette commune, issue d'une liste citoyenne. Son programme a été co-construit avec les habitants et à l'issue de ce travail collectif sur le programme, il a été élu dans le cadre d'une élection sans candidat où les participants dessinent les compétences de la future tête de liste, puis posent un nom sur ce croquis. Une fois élu, la majorité municipale a souhaité continuer ce travail de coopération et de codécision avec les habitants. On écoute.
Dès le début du mandat, on a engagé trois groupes projets habitants L'idée, c'est que la municipalité choisit des thématiques plutôt structurantes où on va embarquer des habitants et des élus, mais l'objectif, c'est que les élus soient plutôt dans un rôle d'animateur de la séquence et pas dans un rôle de décideur. C'est pour qu'ils nous donnent vos avis, voire qu'ils nous fassent les propositions. Alors, dans le système institutionnel actuel, les habitants ne peuvent pas décider. C'est forcément le conseil municipal qui décide en dernier ressort. Enfin, si le conseil municipal reprend mot à mot les propositions des habitants, on a quand même cette forme de décision du groupe d'habitants. De manière très concrète, les élus choisissent un sujet. Là, c'était quels services publics municipaux demain à la montagne, comment les financer? Très concrètement, augmenter le nombre de places à l'accueil de loisirs, augmenter le nombre de créneaux piscines pour les élèves de la commune, éventuellement recruter un policier municipal. C'était ça. Il y avait 8 propositions comme ça. Et comment les financer? Sachant que là, il y a pas 15 000 solutions, hein. Il y a augmenter la taxe foncière, augmenter les tarifs, et puis éventuellement d'autres petits systèmes qui permettent de financer les services publics. La moitié des habitants qui s'inscrivent sur la base du volontariat et l'autre moitié des habitants qu'on va chercher sur la base d'un tirage au sort. Les habitants qu'on va chercher sur la base du volontariat, ça part d'un projet politique qu'on a, nous, c'est ne pas démotiver les motivés. Alors, le terme de convention citoyenne, c'est exactement ça, avec une petite différence, c'est que certaines expériences de convention citoyenne ne sont pas allées au bout, alors que nous, justement, on cherche à aller au bout. Comment ça se passe? Ben, on a présenté pourquoi c'était ces services publics municipaux qu'on mettait à la décision, et on a présenté comment fonctionnait le budget, comment fonctionnait la taxe foncière, comment fonctionnaient les tarifs des services, pour que, en fait, j'aime pas trop cette expérience, mais pour que cette expression, mais pour que les habitants montent en compétence et ensuite décident en connaissance de cause et échangent en connaissance de cause. Il y avait 6 propositions. Pour l'instant, on est à 4/6 et les 2 dernières, normalement, elles sont calées pour septembre pour la mise en œuvre. Nous, on considère pas forcément qu'on est représentatif et que cette représentativité nous donnerait un blanc-seing ou une légitimité pour savoir à la place des gens. Non, en fait, on ne sait pas à la place des gens. Donc, à un moment, il y a besoin d'aller chercher les gens pour qu'ils nous disent, eux, comment ils perçoivent ça. Une équipe municipale, c'est souvent un entre-soi sociologique, et donc, on a en fait cette forme d'humilité pour dire, non, nous, on ne sait pas forcément, et donc, on a besoin d'aller chercher les avis des habitants. Et le deuxième principe, c'est que on fait le pari d'une espèce d'intelligence collective, c'est-à-dire que ces personnes diverses avec des avis divers, ils vont nous sortir quelque chose d'intéressant. Et les expériences qu'on a, c'est qu'ils nous sortent souvent des choses très sages, mais au sens de la sagesse. Et là, on a bien l'expertise d'usage. Les habitants, qu'est-ce qu'ils souhaitent?
Voilà pour ces mots de Fabien Gracia, maire de la commune de La Montagne en Loire-Atlantique. Manon Loisel, il nous dit finalement que l'usager, c'est aussi un expert de son territoire, qu'il serait tout à fait en capacité en fait de décider. Ça veut dire que quoi? Il faut arrêter avec cette professionnalisation du personnel politique?
Alors, déjà sur l'usager expert, effectivement, l'usager est surtout expert de sa propre vie. Et notamment, du coup, c'est celui qui est en capacité de raconter son vécu pour pouvoir faire en sorte qu'on soit plus conscient collectivement des difficultés des uns et des autres et qu'on trouve des politiques publiques qui soient les plus adaptées justement à la variété de ces vécus. Sur la question des élus, moi je voulais rebondir sur ce qu'il a dit sur est-ce qu'on est représentatif ou pas? On cherche pas à être représentatif. Nous, on met beaucoup l'accent dans le livre sur la fonction de représentant, en disant finalement, on parle tout le temps de nos élus, mais avant tout, nos élus, ce sont nos représentants. Élus, c'est le mode de désignation, on a choisi que ça passait par l'élection, mais au final, avant tout, ce sont des représentants. Et qu'est-ce que ça veut dire représenter en démocratie? Ça veut dire notamment représenter les intérêts des absents. Et donc, pour nous, il y a un vrai enjeu à se ressaisir de cette fonction représentative, de se reposer la question de pourquoi on a besoin de représentants et de comment faire en sorte qu'ils soient en capacité, justement, de faire exister les absents, les voix des absents, de celles et ceux qui ne sont pas là pour faire entendre leur voix ou faire valoir leurs droits.
Donc finalement, ce n'est pas pour en finir avec la démocratie participative, mais pour véritablement achever une véritable démocratie représentative avec des élus en capacité de penser l'intérêt général au nom de tous les absents qui ne participent pas à ce débat. Est-ce qu'il faut en passer pour ça par ces espaces de conventions citoyennes peut-être réelles comme ce qui se passe à la commune de la Montagne? Est-ce qu'il faut faire plus de référendums, de démocratie directe? Comment vous voyez les choses?
Alors déjà, première chose, je pense qu'il faut qu'on ait une exigence renouvelée envers nos représentants. Déjà de dire, on a des gens qui se sont présentés, qui ont été élus, etc. Et il faut qu'on ait une exigence renouvelée sur ce que représenter veut dire. On veut que vous soyez là pour faire en sorte de faire exister les absents. Ça, c'est la première chose avec le personnel déjà là. Ensuite, nous, on fait l'hypothèse que si on continue à mettre ces dispositifs à la marge des lieux de pouvoir, on va creuser le sillon dans lequel on est déjà avec la démocratie participative, c'est-à-dire de raffiner d'un côté une démocratie parallèle impuissante et de laisser, on va dire, le statu quo sur le fonctionnement de la démocratie effective, à savoir la démocratie représentative. Donc on a une proposition un peu choc, un peu balai-masque en fin d'ouvrage, qui est de dire il faudrait peut-être trouver des façons de faire rentrer les abstentionnistes dans le débat, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de notre personnel politique tel qu'il est actuellement. Il faut qu'on arrive à trouver les moyens de refaire rentrer les abstentionnistes dans le débat. Et notre proposition, c'est de dire, on garde le fonctionnement représentatif, mais il faut qu'on aille en partie challenger nos assemblées. Et pour ça, on propose, après chaque élection, de faire rentrer dans les assemblées, au tirage au sort, à proportion de l'abstention, un certain nombre de personnes en correctif des profils sociologiques des personnes qui auront été élues. Donc, je vous donne un exemple. On est aux élections municipales de 2020, 58% d'abstention. On aurait donc une partie de l'Assemblée désignée via le vote, 42% désignée via le vote et via l'élection. Et on aurait 58% des assemblées politiques qui viendraient en correctif, donc des personnes moins diplômées, venant d'autres quartiers, plus de femmes. Et c'est une bonne façon de faire monter en puissance et en qualité le débat démocratique.
Ce qu'on voit maintenant, Loisel, et ce sera ma dernière question, c'est que l'enjeu, c'est le partage du pouvoir, qu'il faut qu'on apprenne peut-être à penser plus horizontal dans un pays qui est très vertical. On voit aussi que pour beaucoup d'élus, tout ceci est un véritable gadget. Autant dire que ce que vous proposez est pour l'instant dans le cadre plutôt de l'utopie.
Alors, sur l'horizontalité, moi, nous, on parle beaucoup de négociations, en fait, notamment au moment où la crise écologique fait qu'il y a tout un tas de tensions sur des ressources rares. On a l'impression que l'enjeu, c'est moins de trouver un dialogue horizontal et apaisé que d'être plus au clair sur les conflits d'intérêts et d'arriver à mettre dans le tour de table les bonnes parties prenantes pour négocier. Et est-ce que c'est une utopie? Alors, sur la dernière proposition, évidemment, on compte pas sur des élus pour défendre cette proposition, puisque c'est quand même une logique qui viendra mettre à mal leur pouvoir. En revanche, on considère que la crise démocratique est telle et son importance est tellement forte dans une période dans laquelle on a des choix cruciaux à faire, une période dans laquelle des guerres se multiplient, dans laquelle effectivement les dérèglements climatiques vont nous amener à devoir faire des choix importants. On se dit quand même que la coalition démocratique doit s'épaissir et que c'est plus uniquement les tenants de la démocratie participative qui doivent se mobiliser, c'est plutôt toutes celles et ceux qui sont, on va dire, anxieux qui doivent se battre pour qu'on aille agir du côté des contre-pouvoirs, du côté des représentants politiques et de la fabrique de l'action publique plus généralement.
Et ce serait effectivement peut-être une belle manière d'éviter la rouille démocratique que Emmanuel Macron citait tout à l'heure. Merci beaucoup Manon Loisel.
Merci.
Je rappelle votre livre coécrit avec Nicolas Rio pour en finir avec la démocratie participative. C'est chez Textuel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres à l'envi sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci à Antoine Dulster qui l'a préparé, à June Lepper qui l'a réalisé, à la technique. Aujourd'hui, c'était Élise Leu.